19h, ça vaut le détour sur France Bleu Armorique.
Et notre invitée aujourd'hui est une artiste qui interroge l'imaginaire et le réel. Nous recevons Sophie Cardin aujourd'hui, artiste associée aux ateliers du Vent de Rennes. Alors Sophie est spécialisée dans la sculpture, les installations contextuelles et les performances. Alors des termes qui peut-être ne vous parlent pas, mais que l'artiste va décrypter pour nous, tout en présentant son parcours et son travail. Notre invitée cet après-midi, c'est Sophie Cardin.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love. Tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I love.
Juste à l'instant, Night in White Satin sur France Bleu Armorique.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Sophie Gardin est notre invitée. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci de venir nous parler de vous et de votre travail à ce micro. Alors, on va déjà s'intéresser à vous. Vous êtes née où, Sophie ?
Je suis née à La Rochelle.
D'accord, à La Rochelle. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a porté vers nos terres bretonnes alors ?
Qu'est-ce qui m'a porté vers ici ? Les études, en fait.
D'accord.
J'ai fait un bac à appliquer à Angoulême. Puis ensuite, je suis partie à Brest faire un BTS en design de produits, en design d'objets. Et puis, après ça, je suis venue aux Beaux-Arts de Rennes.
D'accord. Oui. Donc déjà, ça nous indique que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait peur du voyage, en tout cas du dépaysement.
Non.
Vous avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous avez tendance à vouloir bouger.
Mm-hmm. C'est vrai.
Ça vous ressemble bien, ça ?
Ouais, c'est vrai, ça me ressemble pas mal, ouais.
Alors, on va décrypter un petit peu votre parcours. Vous étiez quel type de jeune fille, vous, Sophie ?
J'étais quelqu'un de bien.
Comme chantait Enzo, c'était vous, quelqu'un de bien, c'est ça. Vous étiez, vous aviez un petit peu votre petit monde, vous étiez très, très scolaire.
J'étais quand même très sociable, j'ai toujours été quelqu'un d'hyper sociable.
C'est intéressant, ça, c'est intéressant, parce que on imagine souvent l'artiste un petit peu dans son atelier, et limite à la lumière de la bougie, même si c'est plus le cas, mais voilà, il y a.
C'est pas mon cas.
Bon.
C'est pas mon cas.
Vous êtes une artiste sociable.
Ouais, c'est ça.
Chouette, ça.
Ouais. Puis le fait aussi de me déplacer tout au long de mes études régulièrement fait que j'ai sociabilisé beaucoup parce que je me suis adaptée aux différents endroits où je suis arrivée.
J'ai aussi beaucoup d'amis. C'est ça, soit vous n'avez plus du tout, soit il fallait en faire.
C'est ça. Mais du coup, comme je les garde aussi, j'en ai beaucoup maintenant.
Alors, comment l'art, finalement, est arrivé dans votre vie ? Est-ce que petite, déjà, l'environnement faisait que vous étiez concernée ou pas du tout ?
Dans mon environnement, j'ai envie de dire familial, pas vraiment.
Mmh.
Je ne sais pas exactement comment l'idée a germé. Mais il se trouve qu'au moment de mes années au collège, j'ai eu vraiment hyper envie d'aller vers les filières d'art appliqué.
D'accord.
Qui offrent plein de possibilités.
Donc les arts plastiques, à ce moment-là, vous parlez, en tout cas les études.
Arts plastiques et les arts appliqués au départ, un peu plus précisément, tout ce qui était design, mode, art graphique, architecture, ces choses-là, ça m'intéressait. Donc je suis allée faire un bac art appliqué.
D'accord.
Et donc là, ça a été un peu comme une espèce de deuxième naissance. Je me suis rendu vraiment une nouvelle porte en fait s'ouvrait. C'était assez incroyable ces années-là.
Pourquoi ? Parce que les études avant, ça vous satisfaisait, mais sans plus ou
Ouais, c'est ça. J'étais plutôt bonne élève. J'aimais bien aller à l'école, mais c'était pas, ça m'enthousiasmait pas.
Fallait le faire, vous faisiez quoi.
C'est ça. Ouais. Mais là, d'un coup, c'était vraiment différent. J'avais l'impression de découvrir, d'avoir des nouvelles perspectives, quoi, de découvrir tout un tas de champs complètement inconnus. En plus, j'étais à l'internat, donc c'était une vie vraiment particulière. On était toute la classe d'art appliqué ensemble, donc c'était hyper stimulant.
Vous aviez du temps pour vous concentrer ces applications-là, quoi.
Vraiment.
Ouais. Mm-hmm. Et alors, justement, les parents, vos parents, quand on dit voilà, je vais partir faire de l'art, en tout cas, je me destine à ça, ne serait-ce que par mes études, la réaction, quelle est-elle ?
J'ai eu vraiment de la chance parce qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé partir à la fin du collège.
Super.
J'ai vraiment eu de la chance, d'autant qu'ils viennent pas du tout de sphère artistique, ils sont pas dans des professions, on va dire, intellectuelles, ils sont ouvriers.
C'est génial, c'est pour ça qu'il faut le dire, c'est chouette.
Ouais, vraiment, ils m'ont fait confiance en fait, ils m'ont juste fait confiance et je pense que eux se posaient des questions, mais ils m'ont pas trop transmis leurs angoisses, donc j'y suis allée plutôt sereinement.
C'est génial quand les parents arrivent à faire ça, et puis surtout, on a toujours l'imaginaire comme ça de parents qui veulent absolument pas que les enfants aillent dans les carrières artistiques, et puis en fait, on se rend compte avec nos invités, qui sont diverses, on reçoit plein de profils différents, mais quand on a des profils artistiques, on se rend compte que les parents sont pas si bloquent pas tant que ça finalement. Mm-hmm. Et c'est votre cas également. Alors, sachez-le Sophie, chaque jour je suis accompagnée d'une intelligence artificielle. Elle s'appelle Glazig et elle a des questions pour nos invités. Évidemment Sophie, elle a des questions pour vous.
Quel est le principal trait de votre caractère ?
Alors, le principal trait de votre caractère, Sophie ?
Je dirais que je suis quelqu'un de calme.
D'accord. C'est bien, c'est calme.
Mmh.
Contemplative.
Ouais, contemplative.
Si on rejoint un peu l'art.
Ouais. Ouais. J'essaie d'être attentive. Aux choses, aux autres, à ce qui m'entoure.
Au moment présent, des
au
choses.
Au moment présent, à là où je suis.
D'accord, eh ben, écoutez, on prend ça. On sait que vous êtes communicante et attentive. On va se retrouver d'ici quelques minutes pour continuer à vous découvrir. Notre invitée, Sophie Cardin, artiste associée aux Ateliers du Vent à Rennes, dont la spécialité, c'est la sculpture, les installations contextuelles et les performances. Qu'est-ce que c'est tout ça? On va en savoir un petit peu plus. Restez avec nous.
France Bleu Armorique.
Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais. La peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière vente. Ce que je n'ai jamais dit.
David Adilier sur France Bleu Armorique, ma dernière lettre.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Et c'est l'artiste Sophie Cardin que nous accueillons cet après-midi, on en est ravis. Sophie, on vous a laissé finalement, juste avant le bac, au début de vos études, celles qui vous ont mené, pas encore à Rennes, c'est après Rennes, pour le coup vous étiez en Bretagne tout du moins. Qu'est-ce que vous avez goûté de la Bretagne à ce moment-là déjà?
Qu'est-ce que j'ai goûté?
La rencontre avec la Bretagne, ça s'est passé comment pour vous?
Je suis venue goûter des huîtres qui avaient un goût différent de celle de chez moi.
Déjà. Du kouign-amann,
des choses comme ça. Ouais. Et puis, c'est ça, surtout des paysages, quand même. Je suis arrivée à Brest, c'était pas évident ces deux années à Brest. J'ai trouvé le climat un peu dur, j'ai trouvé la ville un peu difficile d'accès un peu, mais ouais. Puis j'étais scolarisée dans une classe où tous mes copains rentraient dans leur village breton le week-end, donc je me retrouvais un peu toute seule à Brest. Mais finalement, j'ai découvert du coup une vie brestoise assez dingue en fait, avec des cinémas d'art et d'essai qui diffusaient toute la nuit, qui faisaient des rétrospectives sur des réalisateurs incroyables, le Quartz qui a une programmation complètement dingue. Donc finalement, je me suis plu.
Terre de culture, la ouais, Bretagne d'une manière générale. Alors ça, c'est votre arrivée. Vous avez finalement fait les Beaux-Arts à Rennes.
À Rennes, ouais.
Est-ce qu'il y a des particularités justement suivant les Beaux-Arts qu'on fait dans telle et telle ville? Est-ce que Rennes a une particularité?
Je saurais pas vous dire. J'ai pas fait les Beaux-Arts ailleurs.
Mais il y a pas une réputation comme ça après, qui fait qu'on est plus.
À vrai dire, je sais pas exactement quelle est la réputation de Rennes. Je me suis pas vraiment posé la question, je crois.
Et vous, ça vous a apporté quoi? Sur quoi vous avez finalement déclenché votre création, votre créativité?
Pour moi, les années aux Beaux-Arts, c'était vraiment génial. C'était une école ouverte quasiment 365 jours par an, avec des horaires, enfin des amplitudes horaires énormes, des ateliers ouverts tout le temps, avec des employés qui étaient là pour nous accompagner dans les projets, une espèce de liberté énorme, la possibilité de voir des professionnels, des profs sur rendez-vous quand on en a besoin. Enfin, je trouvais ça, sortant d'un BTS, qui est une formation très classique,
très encadré,
scolaire,
très, ouais,
hyper encadrée, ouais, dans laquelle je me suis un peu ennuyée. Là, d'un coup, c'était hyper chouette. J'avais à la fois de l'espace et du temps pour travailler, et de temps en temps, de l'espace et des gens compétents pour à qui présenter mon travail et qui me faisaient des retours. Donc, c'était hyper bien.
Vous avez découvert quoi de vous pendant ces années-là? Parce que faire des études des Beaux-Arts, on peut tous en faire, on peut tous être intéressés par la matière, mais il y a un moment, voilà, on n'est pas tous créateurs. Voilà, on peut, peut s'intéresser à la création sans tous être créateurs. Vous, vous vous êtes trouvé comment?
Déjà, j'ai découvert que j'avais vraiment envie de fabriquer des volumes.
Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle des volumes?
Moi, je... des volumes, des formes en trois dimensions.
D'accord, voilà, tout simplement.
De ce qu'on peut appeler de la sculpture, ce que j'appelle des volumes, là. Assez vite, je me suis bien rendu compte que le dessin, c'est vraiment pas ce qui m'intéressait. Puis je pense que j'étais un peu traumatisée en BTS, justement, du fait de devoir faire des beaux reufs avec des beaux marqueurs. Donc j'ai vraiment mis le dessin de côté complètement. Et puis j'ai fabriqué des objets, des formes, plutôt à l'échelle du corps, entre l'échelle du corps et de l'architecture.
D'accord. Alors c'est quoi ces deux échelles? C'est-à-dire que l'échelle du corps, c'est l'échelle de l'humain.
C'est ça, des objets qu'on peut tenir dans ses mains, et puis des objets qui nous dépassent un peu, mais qui vont pas dépasser un immeuble, quoi.
C'est ça, c'est dans 2 mètres, 2, 3 mètres, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et ça reste d'ailleurs aujourd'hui encore l'échelle dans laquelle je travaille, ouais.
D'accord.
J'ai des constructions qui culminent à 12, 13 mètres, mais globalement, c'est ça.
C'est pas la majorité.
Non.
D'accord. Glazig est toujours avec nous. Elle a une question pour vous, écoutez.
Quelle est votre relation aux nouvelles technologies?
Alors ça, c'est une question un peu qui va ouvrir sur également une de vos œuvres. C'est quoi d'abord votre relation aux nouvelles technologies?
Je regarde beaucoup mon téléphone.
Et pourtant, vous ne l'avez pas sorti, là.
Non.
Ouais, non, c'est... Non,
bah, ça, non,
même
là,
vous,
suis...
ça vous étonne,
ouais,
d'un seul
coup.
Ouais,
c'est vrai. Ouais, non, là, je suis avec vous, non.
Vous êtes concentré sur le moment.
Ouais, c'est ça.
Donc, vous êtes très accro de nouvelles technologies?
Je ne suis pas accro, mais je suis accro comme... un peu. Un petit peu, mais dans la limite du raisonnable.
Alors, ces nouvelles technologies, elles peuvent vous interroger également. C'est notamment le sujet... d'un travail que vous avez fait, d'ailleurs qu'on a laissé sur la page internet sur francebleu.fr. Vous pourrez retrouver le podcast évidemment de cette émission, mais il y a également des photos de vos travaux. Là, il y en a une qui s'appelle « RIP and Kit ». C'est quoi l'histoire?
Alors, « RIP and Kit », c'est donc « Rest in Peace and Keep in Touch ». L'histoire, elle est simple. Un matin, je consulte mes mails et puis je vais faire un petit tour sur Facebook. Et puis là, j'ai la notification de l'anniversaire d'un ami qui est décédé quelques années auparavant. Et je me retrouve, du coup, il se trouve que je venais d'arriver à Montréal, donc j'étais loin en plus de mes copains, tout ça. Et donc, je me retrouve dans un moment un peu suspendu, comme ça, de recueillement devant mon ordinateur. Donc, finalement, je vais sur sa page et je me rends compte que des amis à moi lui postent des messages, que sa famille aussi lui écrit. Donc là, je suis carrément interloquée. Donc, je lis ces messages et puis voilà, tout ça me pose question et je décide de chercher un peu qu'est-ce que c'est la démarche de tous ces gens qui ressentent ce besoin de continuer à communiquer avec leurs morts et du coup via les réseaux sociaux. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment un mouvement qui est courant.
Ouais, ouais.
Je savais déjà qu'on pouvait passer une page en mode mémorial sur Facebook, mais je me rends compte qu'en fait, il y a carrément un service qui propose pas spécialement Facebook, mais d'autres plateformes qui proposent de créer des pages mémorielles pour les gens décédés. Et puis je me rends compte qu'il y a des batailles en fait judiciaires énormes, notamment aux États-Unis, entre des plateformes de gestion de boîtes mail et puis des familles endeuillées qui arrivent pas à récupérer des codes d'accès, etc.
Sûr, ouais. Ouais.
Donc bref, voilà, tout ça me pose question et puis me donne l'idée d'une œuvre que j'ai réalisée du coup il y a quelques années. Cette œuvre là qui alors concrètement, je voulais que je vous la décrive.
Comment vous l'expliquer ? Oui, je veux bien, ouais.
C'est un petit cimetière qui est composé de 32 stèles, alors des stèles plutôt format américain, des petites stèles qui font à peu près 40 cm de haut en béton, donc je les ai coulées toutes une à une, je les ai coulées à la main, et puis je les ai gravées avec des épitaphes qui font du coup référence à la manière dont on communique
sur Internet,
etc. Donc avec des messages, mais aussi des QR codes, voilà, des choses comme ça.
Donc finalement, c'est la manière de faire le lien entre ce qu'on pouvait faire anciennement, fleurir une tombe notamment, voilà, et l'aspect physique entre guillemets,
ouais,
du lieu de mémoire, et puis finalement ce qui est en train de se passer, la mutation qui est en train de se passer aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment une manière de relier ces deux choses.
Voilà, si vous voulez aller voir ce que ça donne, n'hésitez pas. Vous allez directement sur francebleu.fr. On a laissé des images pour vous immerger dans ce projet. On va se retrouver d'ici quelques minutes avec notre artiste invitée, Sophie Cardin, aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir son travail, directement sur francebleu.fr. On a mis également tous les liens qui vont bien.
France Bleu Armorique.
Mitsuko sur France Bleu Armorique. Marcia Baila juste à l'instant.
Voilà, justement, non, c'est, non. Ça, c'est ça. Non, mais attends.
En France, on aime débattre de tout. Discuter, échanger, confronter nos points de vue sur les sujets d'aujourd'hui comme ceux de demain. Avec le Grand Débat National, tous les avis comptent. Vous avez jusqu'au 15 mars pour participer près de chez vous ou sur granddebat.fr.
Le Grand Débat National. Transformons ensemble vos propositions en solutions.
France Bleu Armorique.
La météo avec du soleil pour l'instant, il sera de plus en plus chahuté au fil des heures cet après-midi. Des averses d'ailleurs sont possibles éventuellement du côté du pays de Fougères. Les températures relevées cet après-midi entre 10 et 12 degrés. Demain nous aurons des nuages qui vont occuper le ciel. Les pluies arriveront par l'ouest à partir de la mi-journée. Elles seront parfois soutenues dans l'après-midi. Au lever du jour, on aura 6 degrés à Fougères, à Vitré et à Rennes. 7 à Moron, à Plougna et également du côté de Saint-Malo, 8 pour Pleurmel et Locminé, 9 à Saint-Brieuc et à Vannes. À noter que des rafales de l'ordre de 90 km/h sont de bonnes rafales, auront lieu à partir de la mi-journée. Ça va se calmer en soirée. Les températures maximales, elles ont toujours un petit peu du mal à atteindre les moyennes du mois de mars, entre 11 et 13 degrés. France Bleu Armorique, on fait la route ensemble. Je vous rappelle ces difficultés entre Plélan-le-Grand et Guerre. Il y a des travaux dans ce secteur-là et forcément ça ralentit dans les deux sens de circulation votre trajet. Vous avez également quelques travaux actuellement sur la Nationale 165. On est dans le sens Tex, direction de Musillac. Là aussi, des ralentissements peuvent apparaître. Et puis, si vous êtes en direction de Laval au départ de Rennes, prenez votre temps. Vous allez avoir des petits ralentissements dus à des travaux là aussi, à hauteur de Cornier, mais également au niveau du péage de la Gravelle. Prudence et vigilance. Le numéro pour nous joindre, nous donner à toutes vos infos, 02 99 67 35 35.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Sophie Cardin, toujours avec nous. On a vu votre épopée rennaise avec finalement cette bulle de création et de créativité qui était vos études. Vous êtes partie à Montréal, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a eu un intermédiaire entre les deux ou comment vous êtes partie? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure.
Entre Rennes et Montréal?
Ouais.
Ah oui, il y a eu 7 années à Toulouse quand même.
Ah oui, quand même. Ah oui, il y a eu forcément une ville différente. Oui. Donc alors, Toulouse, pourquoi là aussi un déplacement?
Pour aller voir ailleurs.
C'est une bonne raison.
C'est ça, aller voir ailleurs. Et puis il y avait ce... Je suis partie de Rennes en quittant les ateliers du vent, enfin en quittant de manière physique. Puisqu'en sortant des Beaux-Arts, j'avais installé mon atelier là-bas. Et puis il y avait ce collectif Mixar Miris à Toulouse qui m'attirait bien, avec un grand hangar de 4000 m2. Je trouvais ça assez...
Il y avait de la place pour faire des choses.
Ouais, il y avait vraiment plein de place. Et donc j'ai rejoint ce collectif et puis j'ai commencé à développer ma pratique à Toulouse, à la fois en scénographie avec des compagnies de spectacles vivants.
D'accord.
Et puis c'est à Toulouse
donc,
que...
Donc ça veut dire quoi, la scénographie avec des spectacles de...
Alors,
La
scénographie, c'est toute la réflexion autour des matières, des couleurs qui vont traverser le plateau. Et
d'accord.
La manière dont ces matières, ces objets
interagissent avec
interagir,
le spectacle,
c'est ça, avec les corps,
font le spectacle également.
C'est ça, ouais. Exactement.
Donc ça, c'est une partie très vivante finalement de votre travail.
Ouais. Donc il y a eu ça pendant quelques années. J'ai travaillé avec plusieurs compagnies pendant 5-6 ans. J'ai fondé un collectif de performance avec qui on travaillait.
Et c'est quoi une performance?
Alors une performance, c'est quelque chose qui a moins été travaillé sous la forme de répétition. C'est quand on... Alors là, en l'occurrence, avec ce collectif qui s'appelait Les Connasses, on se retrouvait de temps en temps pendant une semaine. On travaillait des matières ensemble, on testait des choses, on expérimentait, on aimait bien aussi échanger nos rôles. C'est-à-dire
d'accord.
qu'il y avait deux danseuses, moi plasticienne et une chanteuse musicienne.
Mm-hmm.
Mais j'étais pas forcément à ma place de plasticienne, donc
pouviez être la danseuse ou
c'est
la chanteuse.
C'est ça, on marchait un
c'est
peu
génial.
Sur les bandes les unes des autres comme ça. Et puis, de temps en temps, on se retrouvait pour une performance. Alors, on aimait bien montrer le travail dans l'espace privé. Donc, dans des appartements, par exemple,
d'accord.
avec des très petites jauges et où, ce qui crée ça faisait qu'on est très proche, en fait, du public. Et, pendant ces moments de performance, évidemment, on a écrit plus ou moins une sorte de scénario, mais les choses arrivent aussi parce qu'elles ont été travaillées, qu'on se connaît en amont, mais les choses sont pas écrites.
Ça se rapproche un petit peu de l'impro. Il y a une forme ou pas ?
Ouais, alors j'ai jamais tellement fait d'impro, mais je pense que c'est pas si loin que ça de l'impro, en effet. Parce qu'on...
Si ce n'est que vous avez tout le background, toute la préparation que vous avez faite, qui est pas établie, voilà, on ne sait pas que ça va aller, que un tel fait ça à tel moment, mais par contre, voilà, il y a
tout. Mais on se connaît, on sait s'écouter, et on est vraiment dans l'écoute, c'est hyper important dans le travail de performance.
Bon, et la cabane au Canada, c'est venu comment?
Et alors, c'est venu comme ça, l'envie de
vous aviez envie de voir autre chose?
J'avais envie de voir autre chose, ouais, c'est ça. Et puis c'est un endroit qui m'attirait pas mal, donc je suis partie à Montréal.
Et quelle est la différence pour une artiste en France et au Québec?
Des différences, il y en a plein. Moi, dans ma pratique, ce qui a été le plus flagrant, c'est que je travaille quand même beaucoup en espace public. Et dans les moments où j'installe, où je suis en train de construire dans l'espace public, donc avec des gens qui passent autour de moi, il se trouve qu'à Montréal, les gens s'arrêtent, sont hyper curieux et n'ont pas la peur, en fait, de venir parler à un artiste qui est en train de fabriquer quelque chose beaucoup moins confiant.
Ils viennent vous demander ce que vous faites.
Ah ouais, ils sont hyper curieux, beaucoup de discussions, ce qui fait que mes temps d'installation, je l'ai doublé à Montréal parce que je savais que j'allais beaucoup interagir.
En France, moins.
Ouais, les gens ont peur, probablement, je sais pas exactement.
Je pense pas
que ce soit un manque de curiosité, mais peut-être plus de la peur.
Non, mais justement, on va en profiter pour le coup. Sophie, est-ce que vous avez envie, quand vous avez installé quelque chose, quand vous êtes en train de travailler dans un espace public, que le public vienne vous voir, vous interagir?
Ouais, moi je suis là pour ça.
Voilà, maintenant on sait qu'on peut oser maintenant. Glazig a une question pour vous, écoutez.
Vous préférez une soirée festive entre amis ou une soirée lecture au clair de lune?
Alors là, c'est dur parce que vous nous aviez dit que vous étiez calme et en même temps, vous étiez très sociable. Donc alors, il faut choisir.
Ouais.
Apparemment, c'est dur de choisir déjà.
Ouais, c'est difficile. Une soirée festive entre amis.
Ouais.
Si je sais que le lendemain je pourrais lire.
C'est ça. Une soirée festive, si le lendemain vous savez que vous pouvez lire. En fait, vous n'avez pas envie de choisir.
Non.
Eh ben, on prend ça alors. Okay. On choisit pas. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Armorique avec notre invitée Sophie Cardin.
France Bleu Armorique. Ça vaut le détour.
Are you drunk or not? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Calvin Harris et Sam Smith, juste à l'instant, Promises sur France Bleu Armorique.
Ça vaut le détour, l'invité de France Bleu Armorique.
Sophie, alors on vous a laissé un petit peu à l'autre bout du monde et vous êtes revenue tout de même sur les terres rennaises. Ce qui fait que vous les aimez bien finalement, ces terres rennaises.
Ah, moi j'adore
Rennes. Cette Bretagne. Ah, je rappelle que vous êtes artiste associé aux ateliers du vent de Rennes. Un lieu dont il ne faut pas avoir peur de pousser la porte. Hein. Vous allez croiser plein d'artistes, plein de disciplines et c'est ça qui est intéressant. Vous allez vous laisser surprendre. Il y a des trucs que vous n'aimerez pas, puis des choses que vous aimerez bien plus. C'est tout le but d'ailleurs de l'art. On n'est pas obligé de tout aimer. C'est important de le préciser aussi. Là, vous travaillez sur quoi en ce moment, Sophie ?
Plusieurs choses. En l'occurrence, je peux vous parler un petit peu de l'œuvre à jouer, qui est un projet qui va se développer. J'en parle parce que justement, ça va être à côté des ateliers du vent.
D'accord.
Il se trouve que c'est un projet qui a été, comment dire, plébiscité. En tout cas, retenu les votes au budget participatif, qui est un projet qui est initié, porté par les habitants du quartier.
Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'ils veulent de l'art à côté de chez eux.
C'est ça. Ouais. En tout cas, ils avaient vraiment envie d'une sculpture, d'un marqueur esthétique dans cet espace et à la fois de jeux pour enfants. Donc finalement, pour l'instant, on l'appelle l'œuvre à jouer. Ils ont contacté les ateliers du vent pour faire un peu l'intermédiaire et puis en leur disant, nous, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Et les ateliers du vent m'ont parlé de ce projet, m'ont proposé le projet. Il se trouve que comme j'avais déjà travaillé sur le quartier, les habitants étaient contents qu'on se retrouve.
Ça, c'est sympa. C'est un échange. C'est d'abord de l'humain, finalement, tout ça.
Ouais, complètement. Parce qu'en fait, j'ai vraiment mené un projet, le projet Vendeur de Rêve, au moment où ces habitants-là emménageaient dans le quartier. Ils étaient vraiment en train de déballer leur carton.
Plein de constructions, tout ça. D'ailleurs, il y a vraiment là aussi de quoi voir hein, sur FranceBleu.fr. On a laissé des images pour vous faire comprendre le projet Vendeur de Rêve, qui est juste génial. Moi, j'adore. Vous pourrez d'ailleurs aller voir le site de Sophie également. Hein, là aussi, les liens sont là. Et cette œuvre à jouer, ça va prendre quelle forme ? Ça prend quelle forme ?
Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, parce que justement, l'idée, c'est vraiment de développer tout un temps où on travaille ensemble avec les habitants. Donc, il va y avoir des dimanches après-midi où on va se balader dans le quartier en se disant qu'on est dans une forêt, par exemple, ou dans une montagne.
Ouais.
Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte des imaginaires, que moi, je fasse l'éponge un peu toutes leurs envies, que ce soit en termes d'action, de jeu, de forme. Et puis ensuite, je vais redéverser ça de mon côté à l'atelier pour synthétiser un peu les choses et puis proposer des formes qui vont, j'espère, répondre un peu à leurs attentes. Mais aujourd'hui, je ne sais pas du tout la forme que ça
va. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va non seulement être du beau, mais ça va être également du beau que les enfants, notamment, pourront pratiquer. C'est ça, c'est avoir ce lien. C'est génial d'avoir le lien entre le jeu et le beau.
En tout cas, c'est vraiment pas une sculpture qu'on regardera. Oui. Mmh. Enfin, c'est vraiment un objet qu'on va s'approprier. Et en effet, ouais, c'est... Oui, c'est ça. C'est une sculpture sur laquelle on va pouvoir grimper.
Vous, votre regard sur ça, sur ce travail que vous êtes en train de mener, et sur le fait que justement, ça ne va pas être quelque chose qu'on va regarder religieusement, mais au contraire qu'on va pratiquer. Quel est votre regard là-dessus ?
Ah bah c'est ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté le projet, parce qu'au départ, à vrai dire, moi l'idée de l'œuf pérenne qui va me survivre, ça m'intéressait pas tant que ça.
Ça vous parle pas tant que ça ?
Non, pas trop. Mais
que les gens s'en emparent plus ?
Ouais, le sujet, je le trouve vraiment super intéressant, parce que du coup, on est à la fois entre l'objet, l'architecture, et le fait de le créer, de penser
ensemble.
Cette forme au service des habitants, de le penser ensemble, ça m'intéresse.
On a une dernière question de Glazig avant de vous quitter. Écoutez,
quelle est la personne qui vous a inspiré ?
Est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré ? Alors pas peut-être au sens pur et strict du terme, mais quelqu'un qui a joué un rôle finalement dans votre épanouissement artistique ?
C'est une
question compliquée, ça.
Bah ouais, il y en a plein d'artistes de mon entourage.
Ouais. Peut-être quelqu'un qui n'est pas artiste, justement.
C'est difficile de choisir une personne.
Donc on ne choisit pas encore ?
Non, on ne choisit pas. Non, c'est vrai, il faut faire des choix. C'est compliqué. Des personnes, des domaines aussi. Je sais pas trop vous répondre. J'ai envie de vous parler de plein de monde, mais ça va être long.
Mais finalement, en même temps, c'est peut-être un peu le secret, c'est qu'un artiste, c'est une éponge et finalement une accumulation de plein de rencontres et de plein de choses comme ça.
complètement. Ouais, ouais.
En tout cas, pour tout savoir sur Sophie, on a mis bien évidemment les liens sur ses réalisations également sur son site internet. Merci d'avoir été avec nous, Sophie Cardin. Je rappelle que vous êtes artiste associée aux Ateliers du Vent de Rennes. À bientôt.
À bientôt.
À très vite.